8h42 à Paris. Vous l'avez compris, c'est le retour du journal des sports avec Antoine Grenier. Et à la une, Antoine, le football, la trêve internationale s'est ouverte hier lundi. En Afrique, les sélections se réunissent et les Lions de l'Atlas accueillent leur champion du Maroc.
Mounir El Khadjoui, gardien numéro 2 de la sélection marocaine, est tout juste auréolé du titre décroché par son club, la Renaissance de Berkane, couronnée ce week-end à 5 journées de la fin du championnat. Le tout premier titre national de l'histoire du club au terme d'une saison quasi parfaite, 18 victoires, 6 nuls, une seule défaite en Botola League. Un sacre qui récompense un long travail entamé il y a une quinzaine d'années, Mathias Reynal.
De Berkane, on connaissait les oranges. Avec ses milliers d'hectares de vergers, la zone produit désormais des champions. Bader, 25 ans, est un supporter de la première heure du club de Berkane.
Au moment du coup de sifflet final, on a ressenti une joie indescriptible et on en a pleuré. C'est un titre que tout le monde veut avoir au Maroc.
Irrattrapable en championnat, l'officialisation du titre samedi dernier a déclenché des scènes de liesse. Longtemps cantonné aux divisions inférieures, la métamorphose de Berkane commence en 2009 avec l'arrivée d'un nouveau président, Fawzi Lekja, qui lance la modernisation du club. Devenu en 2014 le patron du foot marocain, il investit dans les infrastructures avec un tout nouveau centre de formation. Fawzi Lekja quitte la présidence de Berkane en 2019. L'équipe, elle, engrange les succès. Vainqueur deux fois de la Coupe de la Confédération en 2020 et 2022, le club nourrit de nouvelles ambitions. Moïn Chaabani, le coach tunisien de Berkane.
Aujourd'hui, on est champion, mais pour moi, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on doit avoir. Il y a encore des défaillances, des choses à améliorer. On a des défis plus grands qui arrivent. Aujourd'hui, chaque équipe qui va affronter Berkane sera encore plus motivée. Donc, il faut qu'on soit prêt.
Organisation rigoureuse, gestion exemplaire, la stratégie de Berkane paye. Le triplé, championnat, Coupe de la CAF, Coupe du Trône, est désormais à portée de main. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Le Maroc de Mounir El Khadjoui qui disputera les 5e et 6e journées d'éliminatoire de la Coupe du Monde face au Niger et à la Tanzanie, pendant que son voisin, l'Algérie, affrontera le Botswana et le Mozambique.
Des Fenech premier d'un groupe G encore assez serré dans ses éliminatoires du Mondial, à égalité de points avec les Mozambicains et 3 d'avance sur les Botswanais. Pour ces rencontres, le sélectionneur Vladimir Petkovic a enregistré de nombreux forfaits avec les absences d'Anthony Mandrea, le gardien de Caen, Anis Hadj du Feyenoord ou même Ismaël Benacer, blessé avec l'OM. L'occasion pour le Suisse de faire des choix forts, notamment en décidant du retour du fantasque milieu offensif Youssef Belaïli.
Benacer avait très envie de venir, surtout qu'il était en forme après ses bons débuts avec l'OM. On comptait vraiment sur lui pour les deux matchs éliminatoires à venir. Malheureusement, j'ai appris qu'il avait ressenti une douleur musculaire avant la rencontre face au PSG. Concernant Youssef Belaïli, il est régulièrement performant dans son club actuel. Donc j'ai pensé que c'était le bon moment pour l'appeler.
Vladimir Petkovic avec Sofiane Anani.
Sélection toujours, mais chez les jeunes, pour finir, Fousseni Diawara prend en main les U23 maliens.
L'ancien international retraité en 2015 est de retour dans le nid des aigles. Le triple demi-finaliste de Cannes a été nommé sélectionneur. Il rejoint les aiglons en compagnie de son ancien partenaire Sambasso, nommé lui au poste de manager général.
Antoine Grenier, merci à vous. Deuxième épisode ce matin de notre série de reportages au Cameroun, dans la région du Sud-Ouest, l'une des deux à majorité anglophone du pays, 8 ans après le début d'une lutte armée entre groupes séparatistes réclamant l'indépendance d'un Cameroun anglophone et force gouvernementale de Yaoundé. Une crise qui a beaucoup évolué durant toutes ces années. Il n'y a plus de front à proprement parler, mais des zones d'insécurité, et les civils sont les premières victimes. À Mile 14, dans la banlieue de Boya, Amélie Tulé s'est rendue dans un centre de rééducation autrefois dédié à la poliomyélite qui aujourd'hui, et cela depuis 8 ans maintenant, prend en charge de véritables blessures de guerre. Reportage.
Sur une dizaine de machines grinçantes, les pensionnaires du centre géré par le diocèse de Boya réapprennent à se mouvoir. Rien qu'en 2024, l'équipe de sœur Hortensia a pris en charge 49 personnes amputées venues des deux régions.
Depuis le début de la crise, si vous regardez autour de vous, nous recevons surtout des patients qui ont subi des amputations causées par des tirs, des explosions. D'autres se sont retrouvés bloqués dans leur maison incendiée. Ils ont pu s'enfuir, mais avec des blessures graves qui n'ont pas été traitées à temps et ils ont dû être amputés.
Un espace est dédié aux enfants souffrant de malformations, parfois liées au manque de soins pendant la grossesse et à des accouchements précaires.
Donner naissance à un enfant dans le bouche, ce n'est pas pareil qu'à l'hôpital. Et avec la pauvreté, certaines femmes enceintes sont mal nourries. Beaucoup de ces enfants arrivent avec leur grand-mère. Quand je demande où est la mère, on me répond « elle est partie ». Beaucoup sont nés de viols, commis par des hommes armés. La fille est violée, donne naissance à l'enfant, l'abandonne et s'en va.
Dans une des chambres, sur trois lits côte à côte, trois jeunes filles, Merline, Emmanuela et Cynthia, amputées des deux jambes. Elles sont rescapées de l'attentat de Nkambé, ville du Nord-Ouest, où le 11 février 2024, un engin a explosé lors de la fête de la jeunesse organisée par les autorités. Merline avait 15 ans.
Je suis allée voir le défilé. Nous étions debout sur les côtés pour regarder. Il y avait de la danse. Nous étions là et soudain, nous étions allongés sur le sol. Ils nous ont fabriqué des jambes artificielles. Tous les jours, nous les mettons pour apprendre à marcher avec.
Sur le lit d'à côté, Emmanuela, 17 ans, tire sur le bas de sa robe pour cacher ses cicatrices.
C'était dur à cause de la douleur, mais à présent, ça va. La douleur est partie.
Quand ces filles sont arrivées ici, elles n'avaient plus des visages d'enfants. Elles ressemblaient à des grands-mères. Le soutien post-trauma leur a fait du bien. Depuis, heureusement, elles vont mieux.
En fin de journée, un nouveau patient arrive, amputé d'une jambe après une attaque des Amba Boys contre sa ferme. Il a entendu parler du centre de rééducation à la radio et il vient pour une prothèse. Amélie Tulé, de retour de Boya, RFI.
Cette série de reportages à retrouver sur notre site rfi.fr à Boya et Franceville. Il est 8h49. Direction le Gabon à présent pour notre dossier Afrique Économie, plus précisément dans la région du Haut-Ogooué, dans l'est du pays, pardon, où se trouve, contre toute attente, un domaine viticole, projet de prestige qui avait charmé Omar Bongo à l'époque, il y a 20 ans, au point d'en servir de ce vin dans les ambassades à travers le monde. Le vignoble d'Assiami, lancé sur les terres de l'ancien président gabonais, est toujours détenu par la holding familiale et tente de se relancer aujourd'hui et de se diversifier pour survivre. François Mazet s'est rendu sur place.
Passé Ngouani, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Franceville, une discrète pancarte indique la piste menant au vignoble du Haut-Ogooué. Lorsqu'il ouvre une bouteille de Malimas rouge pour la dégustation, Vincent Momfumbi pense aux efforts consentis pour produire du vin à l'équateur.
Ah oui, mais les défis sont multiples. Hein. Déjà, le climat, il n'est pas toujours favorable, mais bon, ça s'adapte. Donc on fait avec les quelques méthodes, les quelques mécanismes que nous avons reçus. On a un peu quand même maîtrisé l'aspect traitement, l'aspect protection. Au départ, il y avait beaucoup de criquets, beaucoup d'insectes qui s'attaquaient aux feuilles et aussi les boutures, et même les bois eux-mêmes étaient aussi attaqués. Ça occasionnait beaucoup de chutes. On a eu beaucoup de pertes. On a essayé d'apporter quelques traitements pour pouvoir maintenir et contenir les ravageurs.
Présent depuis l'ouverture il y a 20 ans, l'ouvrier viticole a connu les rêves de grandeur vendus à Omar Bongo, les 40 hectares plantés, la centaine de saisonniers mobilisés.
Donc on avait à la base le blanc, le rosé et le rouge. En ce moment, nous essayons de produire le rosé et le rouge. On s'efforce à faire quelque chose de bien. Tout est fait sur place, la récolte, la vinification, l'embouteillage, l'étiquetage, le bouchonnage, tout est fait sur place.
La réalité a rattrapé le vignoble où subsistent moins de 4 hectares de cépage carignan noir et 7 employés pour moins d'un millier de bouteilles par récolte. Appelé à la rescousse en 2018, Cédric Pabou a vu ses projets de relance perturbés par la période Covid, mais il veut croire à la pérennité.
C'est le seul vignoble d'Afrique centrale. Donc les repères, ils sont simplement des années qui filent. On arrive maintenant à faire exprimer la vigne. Il faut passer à l'étape supérieure, c'est le replanting. Puisque la vigne, ici au Gabon, sous un climat tropical, n'excède pas 15 ou 20 ans grand maximum. Donc l'important, c'est de régénérer tout en replantant tous les 2-3 ans. La relance, ça repassera par le planting, mais aussi par de la diversification, notamment avec la plantation d'arbres fruitiers, peut-être en termes de jus de fruits, peut-être en termes de qualité de vin, pourquoi pas en alcool. Nous voulons rester à la base sur du côté artisanal.
Le directeur du vignoble a noté les discours favorables à la diversification agricole portée par les autorités de la transition. Il espère que cela permettra d'attirer des jeunes Gabonais intéressés par le travail de la terre et par un projet de vie sur les plateaux Bateké. François Mazet, de retour de Franceville, RFI.
Afrique Économie sur RFI. À Paris, il est 8h52. Musique. notre choix musical, comme chaque matin sur RFI aujourd'hui. On vous propose une belle et improbable fusion entre culture berbère et bretonne. Sous le signe du rock, après une décennie sur la route, le groupe Babel West, La Porte de l'Ouest, sort son troisième album, Aman. Et vous êtes en studio pour nous en parler ce matin. Bonjour Carmen Lunsman.
Bonjour Adriane.
Dans cet album, 8 titres conçus comme des fables modernes sur les enjeux du monde. Quels sont-ils ces enjeux, Carmen ?
Les plus essentiels pour l'humanité, en commençant par l'eau qui donne le titre à l'album et à ce morceau qui l'ouvre. Habib Farouk, le chanteur et guitariste du groupe, l'explique.
L'album Aman, qui veut dire l'eau en berbère, est né d'une réflexion profonde sur l'eau. C'est la source de vie, un élément qui unit les cultures et traverse les frontières. À cela s'ajoutent des défis liés aux infrastructures qu'on connaît en Afrique. L'accès inégal à l'eau potable, les effets du changement climatique qui aggravent la sécheresse et la désertification.
وانا يا بداري لي فيها جدي مدفوق شحال خصني نوري ليكم وشنو اللي طاري في جبالي في السماكم حتى البر الخالي تبرع منكم ولينا ما مسالي حتى يعطينا خبركم
Le titre Tagia, qui vire subtilement au disco raï, place là encore, Andréane, l'humanité face à ses responsabilités, tandis que d'autres, comme El Kef, évoquent le bonheur et la pauvreté d'une nuit de noces, le ventre vide.
رجالي بدوية بترقص حجالي
Ce mariage entre Occident et Orient, entre sonorité rock et maghrébine, a forgé l'ADN du groupe Babel West depuis ses débuts. Qui compose ce groupe, Carmen ?
Ils sont trois cofondateurs, un Marocain, un Français et un Tunisien, qui décident en 2011 de réunir leurs forces et leurs différences. Le premier, berbère par son père Habib Farouk, a fait ses débuts au Maroc en psalmodiant le Coran. Il remporte d'ailleurs un premier prix à 9 ans, avant de s'aventurer dans le répertoire andalou. Il est rejoint par un contrebassiste autodidacte, Clément Valin à la basse, qui apporte un grain celtique et de jazz manouche, et par Hamza Ben Cherif au chant et à la guitare électrique. Dans ses cordes du rhythm and blues et de la soul, dont il s'est imprégné pendant 2 ans à New York, et des touches inspirées de la scène électro parisienne berlinoise.
À partir de ce melting pot, Babel West fait des virages vers d'autres horizons encore, où la cumbia sud-américaine rencontre l'afro beat comme dans ce titre à la rose. Aujourd'hui, Babel West continue à explorer le monde dans toute sa diversité, Carmen, avec 3 albums à son actif. Village en 2017, un peu folk. Frontière en 2019, plutôt pop.
Et maintenant, l'eau, carrément rock. Parce qu'il n'y a qu'avec le rock, comme l'explique le leader du groupe, qu'on peut montrer avec élégance qu'on est énervé. Donc cet album chargé de symboles et de métaphores de la poésie berbère questionne le monde à travers le pouvoir rassembleur d'une musique universelle, solaire et libre comme l'eau.
Thank you. nouvel album Aman de Babel West. C'était notre choix musical ce matin et je précise que le trio sera en concert ce vendredi 21 mars au Trianon et le 21 mai au Café de la Danse à Paris. Merci Carmen Lutzmann.
Merci Andréane.
Et à bientôt surtout. C'est ainsi que se termine notre matinée ensemble. Christophe Pernet était à la réalisation, Gaëtan Plenet, Pierre Pinto à la rédaction en chef. Vous restez avec nous dans deux minutes, le journal, et ensuite ce sera Appel sur l'actualité. Bonjour Juan Gomez.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à toutes et à tous.
Au programme aujourd'hui, Juan, la Guinée, est-ce une chasse aux sorcières ou un assainissement de l'espace politique qui s'opère dans le pays? Question que vous posez ce matin.
Ah oui, on lancera le débat, d'autant que ces derniers mois, les autorités de transition ont procédé à une évaluation des partis politiques. Question de vérifier s'ils sont en conformité avec la loi. 27 partis ont été dissous, 28 sont suspendus pour 3 mois, dont le RPG de l'ex-président Alpha Condé. En tout cas, les autorités assurent qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières. Vos réactions, évidemment, nous intéressent. Elles sont déjà nombreuses. 33 9 693 693 70. Bonne journée, Andréane Mellard.
Bonne journée à vous.
Dans moins de 2 minutes, le journal.
Priorité santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui. Selon l'OMS, on estime que 325 millions de personnes vivent avec l'hépatite B ou l'hépatite C dans le monde. Quels traitements et moyens de prévention existent? Pourquoi est-il important d'étendre la vaccination contre l'hépatite B?
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Ce mardi sur RFI,
Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
Dans les manifestations monstres des étudiants en Serbie contre la corruption du gouvernement Vučić, le drapeau européen est très absent des cortèges. Désabusé ou critique du soutien apporté par Bruxelles au pouvoir, que pense la jeunesse de l'Europe?
Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h10 TU, sur RFI.